Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite, cet homme? Qu'est-il devenu se posséder, cet homme tourmenté par un esprit impur, une fois que Jésus l'a eu délivré de son mal? Est-ce qu'il a repris sa vie d'avant? Comme nous le souhaitons tous, plus ou moins vaguement, revenir à la vie d'avant, avant la pandémie. Et c'est une bonne question à se poser. Quand la pandémie enfin s'arrêtera, quand le virus enfin disparaîtra, est-ce que vous reprendrez votre vie d'il y a un an? Y a-t-il des choses que vous changerez dans votre vie? Certains n'auront pas le choix, qui ont vécu la mort d'un proche, qui ont perdu leur travail ou leur outil de travail. Mais sinon, est-ce que vous pensez que nous profiterons mieux des joies dont nous sommes actuellement privés? Comme si nous avions déjà oublié l'exhortation de saint Paul dimanche dernier, que ceux qui profitent de ce monde soient comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Qui explique d'ailleurs, soit dit en passant, la deuxième lecture qui est dans la continuité du même texte. Peut-être le temps n'est-il pas encore venu de poser la question, alors je voudrais la poser autrement. Qu'est-il devenu l'esprit impur que Jésus a expulsé de cet homme? Autant nous ne savons pas ce que l'homme est devenu, autant nous savons ce que l'esprit impur est devenu, parce que les deux évangiles de Matthieu et de Luc le disent de façon identique. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il s'en va dans des lieux déserts, cherchant un lieu de repos, il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner d'où je viens, dans ma maison. En arrivant, en revenant, il la trouve vide, inoccupée, balayée, bien rangée. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent, et l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. C'est pas très encourageant. Et c'est pourtant très réaliste. Je me souviens de ce jeune père de famille que j'avais accompagné à la mort de sa fille, son troisième enfant. Je venais de la baptiser et elle est partie en 3 semaines d'une tumeur au cerveau. Cet homme, totalement donné à son travail, prend violemment conscience du peu de temps qu'il avait donné à son enfant. Il n'avait pratiquement pas vu. Et je me souviens, dans ces jours terribles, la résolution, la promesse qu'il faisait à voix haute avec moi, je vais changer de vie, je ne vais pas recommencer pareil. 1 mois après l'enterrement, on lui faisait une offre de promotion professionnelle, impossible à refuser, du moins pour lui, avec un engagement, là pour le coup, pire sur le plan familial. Quand on guérit d'un cancer, les médecins ne parlent pas de guérison, ils préfèrent parler de rémission. Eh bien, c'est pareil pour nous qui professons notre foi en la rémission des péchés. Et c'est une parole mystérieuse du Christ qu'on trouve à 2 reprises dans l'évangile de saint Jean, quand il dit « Va et ne pêche plus ». Ne pêche plus. Alors, il le dit, vous en souvenez peut-être, à la femme adultère. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors on se dit, c'est dans le contexte de cette relation désordonnée. Mais il l'a dit quelques chapitres plus tôt, au chapitre 5, un paralytique qui gisait près de la piscine qu'on appelle de Bethzatha, c'est pour ça qu'on donne le nom à cet épisode. Il le retrouve ensuite dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver pire encore. Un paralytique qui était dans cet état-là depuis 38 ans.
ne pêche plus.
Alors, le contexte est assez clair. Il est près de la piscine de Bethsaida, il y avait cette tradition, cette certitude que lorsque l'eau se mettait à bouillonner, c'était parce que l'ange du Seigneur était là et il fallait y plonger un malade qui en sortait guéri. Et Jésus lui demande s'il veut guérir et il répond, « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et chaque fois que j'y vais, il y a quelqu'un qui passe avant moi. » Ne pêche plus signifie ne pêche plus contre l'espérance. Ne pêche plus par désespoir, par désespérance. Ne désespérez jamais. Mardi, le 2 février, nous fêterons la présentation du Seigneur. Et nous retrouverons dans l'Évangile ces deux anciens que Saint-Luc met en scène pour incarner l'espérance du peuple d'Israël, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Ils sont, pour tous les jeunes de tous les temps, une invitation à ne pas s'étonner de trouver autant de personnes âgées à l'Église. C'était déjà comme ça du temps de Jésus. Quand il est arrivé dans le temple, tout petit, c'était deux anciens qui l'ont accueilli. Et pour les personnes âgées, c'est une invitation extrêmement forte à témoigner de leur foi, à être des signes vivants de leur espérance, de notre espérance. Et Saint Luc, pour parler de cette espérance, utilise deux termes. Il dit que Siméon était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Quant à la prophétesse Anne, elle parlait de tout le monde, de cet enfant, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem. Voyez la différence, pas entre Israël et Jérusalem, entre consolation et délivrance. Ce n'est pas très compliqué de consoler. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ce n'est pas très compliqué. Il faut être là, il faut se rendre présent, aux côtés de la personne affligée. La délivrance, c'est plus cher. Et le paralytique disait très justement, « Je n'ai personne !» Et un commentaire magnifique disait, ajoutait, parce que c'est vrai, ça grouillait de monde, il disait, il y avait beaucoup de monde et il n'y avait personne. C'est ça, la solitude malheureuse. Il y a plein de monde et on est tout seul. Consoler les affligés, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. C'est la promesse du Christ. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais c'est le premier degré d'humanité. Ce que tout enfant attend de sa maman. Ce que notre âme d'enfant, quand nous sommes dans l'épreuve, attend de la Vierge Marie, d'être pris tendrement dans ses bras, dans son grand manteau bleu. Avec toute personne dans la peine, il faut commencer par là. Heureux les pauvres, dit Jésus au début des Béatitudes, comme le signe de ce regard du Père pour tous ses enfants malheureux. Mon pauvre enfant, mon pauvre enfant. Un des grands livres de la Bible sur la souffrance, le livre de Job, donne une leçon extrêmement forte dans l'attitude de ses amis. Ses amis qui viennent le consoler. C'est le rôle d'un ami. C'est ce qu'on attend aussi d'un ami. Et puis, comme ça se passe des siècles avant le Christ, comme ils ne connaissent pas le Christ, assez vite ça dérape. Et au lieu de se tourner vers Dieu, pour prier, le supplier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Job, ils se mettent en face de lui et ils cherchent dans sa vie l'explication à son malheur. Ils cherchent une justification à ce qui lui arrive de terrible. Ils se mettent en face de lui au lieu de se mettre à ses côtés. Comme nous l'avons appris de Jésus, il est venu se mettre à nos côtés pour que nous soyons, comme ce matin, ensemble, devant Dieu, devant son Père et notre Père. Si vous voulez consoler quelqu'un, allez vous mettre à ses côtés. Mais pour le délivrer, souvenez-vous, gardez toujours en mémoire cette petite parabole de la maison vide. L'esprit impur revient si la maison reste inoccupée, si c'est vide, même si c'est propre, balayé, bien rangé. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque messe, après la Notre Père, il y a cette prière que je dis en votre nom, en notre nom à tous. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous, console-nous, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est l'espérance qui empêche le démon de revenir, c'est l'espérance qui empêche le démon de s'installer. Ne désespérez jamais.